Alors, évidemment, ensuite, il s'agissait de convaincre de l'absence de frontières entre bibliothèque et archives, puisqu'il s'agissait, au sens matériel, tout simplement de montrer l'évidence qu'il y a des textes manuscrits dans les livres, des annotations, hein, et on le sait très bien, dans la bibliothèque, on a une grande tradition de traitement qui, en général, vise à exclure et à exporter ce genre de notules, pas forcément à les jeter, mais à les mettre à part, sans forcément noter le lieu de la page, alors que parfois, vous voyez ici une note à l'intérieur sur les laïcs au milieu d'un décret de Gratien, en termes de connectique, on va dire, de la pensée, on est là dans pas simplement dans l'archéologie, mais vraiment dans le soubassement. Hein. C'est l'archéologie de la lecture comme geste. Mais il y a malheureusement aussi des signets, et on les a tous, non annotés. Comment on fait? Comment on les traite? Hein, puisque là, volontairement pris ce gros plan, sur tous ces signets, il n'y a pas un seul mot. Ils ne disent rien d'autre qu'une référence, qu'un lien, que évidemment qui ne peut pas se prolonger dans le cadre d'une bibliothèque, d'une gestion bibliothèque économique. Hein, on ne peut pas transformer chaque livre en objet archéologique dans une caisse de 30 cm sur 50 cm. Hein, bon. Donc, tout autant de problèmes. Et autre, dans cette typologie de l'absence de frontières, évidemment un grand classique, mais qui très souvent n'a pas de représentativité systématique, parce qu'on extrait en général les plus grands livres ou les livres les plus célèbres, évidemment les dédicaces, ou les ex-libris là en l'occurrence, qui sont la marque des généalogies. Alors évidemment, comme il avait une grande politique d'acquisition bibliophilique, là c'est assez drôle, parce qu'effectivement c'est un sorbonicole de 1609 qui a possédé ce livre, et lui est, alors que d'habitude il ne marque jamais ses ex-libris, là il l'a marqué. Il y a juste en général soit le bras, soit rien, mais là il précise professeur à la faculté de droit de l'université de Paris. Donc là il y a un jeu assez drôle, mais très banal, une fois de plus. Alors cette généalogie, elle peut même se déployer sur un temps extrêmement profond, qui est celui typiquement des traditions juridiques. Ici, un des très beaux noyaux, puisqu'il y avait quand même deux incunables et disons une trentaine de ce qu'on pourrait appeler des pseudo-incunables, c'est-à-dire des livres publiés avant 1530, qui sont extrêmement rares. Un très beau noyau d'une bibliothèque d'un juriste archevêque de Milan, donc un certain Philippe Arquinti, et vous voyez JC, en fait, c'est pas Jésus-Christ, c'est jurisconsulte, hein. Donc Philippe Arquinti, et en fait, dans l'histoire de ses acquisitions bibliothéconomiques, il se trouve qu'il en avait, il avait fini par acheter une trentaine de livres, je pense d'un coup, évidemment, de ce juriste. Au passage, ce juriste était le prédécesseur de Charles Borromée à l'archevêché de Milan dans les années 1530, donc c'était d'autres types de généalogie, évidemment pas mythique, mais disons qu'on trouvait, mais qui sont propres à l'espace intellectuel du droit, qui est un espace de l'exégèse et de la tradition. Alors évidemment, les annotations, autre type d'annotation classique, et une fois de plus, je ne dis que des banalités, la dédicace ici, et cette dédicace dont on sait qu'elle peut être une source absolument à la fois trompeuse et incomparable pour reconstituer les réseaux de filiation, les réseaux d'hommages. Hein. Mais on a aussi beaucoup de bibliothèques pour des gens qui ont eu des positions de pouvoir intellectuel très fortes ou qui reçoivent à peu près tous les livres, évidemment, c'est là où ça devient trompeur, parce que forcément, l'hommage n'est qu'un hommage recherchant la faveur, évidemment. Mais évidemment, il y a aussi des choses intéressantes. Là, je note que c'est Henriette Sicari, fille d'Ernest Renan, on y reviendra, qui dédicace ce livre. Là, Fernand Braudel, c'est assez drôle parce que là, pour le coup, on est plus dans l'hommage, effectivement, puisque cet exemplaire de la Méditerranée n'est pas ouvert. Je veux dire, les pages ne sont pas... Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas du tout pour faire du mauvais esprit dans ce lieu. mais il se trouve que, voilà... Alors la question c'est, avait-il l'édition de poche? Mais ça c'est l'édition, le Brodel lui a offert en 49 quand c'est sorti, donc je sais pas. Et puis on trouve, l'histoire d'une partie de la pensée intellectuelle française des années 50-60, ou même plus tôt, Claude Lévi-Strauss et la pensée sauvage, c'est pris au hasard, ou Alfred Métraux et le vaudou haïtien. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, parfois les dédicaces sont quand même plus parlantes que simplement une simple griffe, hein, cet essai de sociologie religieuse franco-africaine avec les respectueux hommages. Alors c'est assez intéressant parce qu'on n'associe pas nécessairement la démarche de Métro, je prends cet exemple, hein, à une généalogie lebrasienne, le Bras travaillant sur la France rurale, je vais dire des années 30. Donc c'est, voilà, il y a des choses qui surgissent, hormis évidemment une exploitation systématique pourrait donner quant au réseau et aux différentes formes. Bon, les lacunes étant toujours difficiles à faire parler. Hervé Le Bras m'avait dit qu'il n'avait pris quasiment aucun livre Hervé Le Bras est devenu quand même un démographe et puis surtout un acteur des sciences sociales en France assez important. Donc on aurait pu se dire, tiens, bah oui, il s'est fait son noyau de bibliothèque à partir de celle de son père. De fait, c'était très juste. Il m'avait dit d'ailleurs tout de suite, si, j'ai pris les structures élémentaires de la parenté dédicacée. Mais là, c'est le palladium, si vous voulez. C'est l'effet palladium des sciences sociales françaises qui, voilà, bon, évidemment, il avait déjà lui-même certainement son exemplaire. Mais bref, mais donc, de fait, on verra assez peu d'érosion, là aussi, en apparence. Alors, l'absence de frontières, elle est aussi, évidemment, dans les lieux de rangement, puisque les bibliothèques peuvent servir, comme c'est le cas, vous voyez ici, de lieux de dépotoir de différents papiers, dépotoirs qui peuvent être parfois intéressants, puisque la bibliothèque est aussi un lieu où on cache. C'est très connu, on met de l'argent dans les livres. Enfin, je crois que tout le monde a dû faire ça au moins une fois, plus ou moins, dans sa jeunesse, au moins. Hein. C'est un très bon lieu. C'est le coup de la lettre pas volée, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'elle est, la lettre. Mais le rayonnage d'une bibliothèque sont un lieu possible. Hein, parmi les milliers de lieux possibles, il n'y a pas que les lattes de parquet pour faire des petites caches. Là, en l'occurrence, glisser une pochette tout à fait... je ne sais pas si c'est un procédure de cache, mais elle s'intitulait « Ego ». Dessus. Et effectivement, c'est une collection de cartes de visite, de cartes d'identité de Gabriel Le Bras, personnage par ailleurs vraiment absolument pas, qui n'a jamais quasiment écrit au contexte autobiographique, qui n'a jamais parlé de lui, qui au contraire n'a pas cessé de s'effacer. Donc c'est toujours intéressant des petites trouvailles comme ça. Alors évidemment, parmi les traces qui constituent la bibliothèque en tant qu'archive de la pensée, de la lecture, il y a évidemment la liste constituée, mais j'y passe sous toutes ses formes, en forme thématique, ici forme chronologique, puisqu'effectivement, plus globalement, en dehors des traces internes que la bibliothèque peut receler, il y a plus globalement ce que l'entité, mais c'est une évidence là aussi, forme en termes de généalogie ou de référence. Mais il y a aussi des connexions inattendues que la matière, ou disons les rayonnages rêvés. Vous voyez ici, puisque dans les sacristies, en fait, et c'est très intéressant, je ne vous l'ai pas encore dit, je vous dis que dans la pièce majeure, qu'on aurait tendance d'ailleurs à vouloir qualifier de nef ou d'église, parce que s'il y a des sacristies, il faut bien qu'il y ait, presque d'une certaine façon, il avait transformé, enfin, sans le dire indirectement, son bureau, où il recevait effectivement beaucoup et beaucoup d'étudiants, et beaucoup, beaucoup de gens d'ailleurs, il y a toute une mémoire orale de la réception et de la montée de l'escalier chez Gabriel Le Bras. Donc, dans la nef ou dans l'église, il y avait le droit. Et à partir de la sacristie, à partir de là, c'est la porte d'entrée des deux sacristies. En fait, c'est l'essentiel de l'histoire ecclésiastique et surtout de la sociologie. Donc, c'est quand même assez intéressant que la sociologie soit topographiquement l'arrière-monde du droit, puisque c'est exactement ce qu'il a passé 40 ans à défendre, c'est-à-dire le droit à la fois comme une sorte de précipitation de rapports sociaux et en même temps comme véritable propédeutique à une sociologie des rapports sociaux. Il a fait notamment des consultations canoniques sur le mariage jusqu'à la fin de sa vie. Il était le dernier en France à faire ça. Je crois même que Jean Godemet, son élève, a arrêté, puisqu'il y avait encore quelques personnes qui se demandaient pour faire des annulations canoniques pour le mariage, en dehors du divorce, bien entendu, j'entends, hein, comment ça se faisait. Il y avait encore des conflits là-dessus, relevant des officialités du Moyen-Âge. Bref. Donc, la sociologie dans les sacristies, vous voyez, sur ce pendant de bibliothèque, il y a une petite affichette, vous la voyez à gauche, rapprochons-nous. Et alors, au début, je m'étais dit, en passant une première fois comme ça, oui, bon, bah, ça doit être l'intitulation des étagères qui, effectivement, sont étiquetées. Bon. Et en fait, c'est encore plus compliqué que ça, c'est que c'est l'articulation entre les étagères et un plan de cours, en l'occurrence un cours d'histoire ecclésiastique, où il y a effectivement un renvoi aux différentes aux étagères, mais vous voyez, 1, 2, 3, 4, c'est le plan du cours. Le plan n'est pas... il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Hein. Milieu et source, organisation ecclésiastique, vie spirituelle, vie sociale. Ça a été un professeur jusqu'à la fin de sa vie. Hein, donc, mais des articulations, là aussi, qui disparaissent ou qui sont extrêmement ténues, hein, entre un système de référence bibliographique et un mode de pensée. Alors voilà, une image, là aussi, un petit peu déchirée, si j'ose dire, de la seconde sacristie. Et rapprochons-nous, je vous le disais, il y a différents niveaux, différentes strates, au-dessus, en fait, des rayonnages. Et là aussi, on voit toujours la dialectique entre les contraintes matérielles, et qui est la dialectique de tout le monde, des contraintes matérielles d'une bibliothèque et des supports qui les gouvernent, et le classement intellectuel. On n'arrive jamais à un classement, une adéquation idéale entre ces deux ordres du monde, on va dire. Et effectivement, les tirés à part qui non seulement prennent la poussière, mais sont d'autant plus nombreux qu'on les reçoit pour des raisons d'hommage, avaient tendance à être stockés le plus haut possible, avec un classement quand même alphabétique par auteur. Et d'ailleurs, symétriquement, vous voyez les stocks de tirés à part, cette fois-ci, n'ont pas reçu, mais non envoyés, puisqu'en fait, ce sont ces tirés à part. Et vous voyez d'ailleurs, c'est assez beau, l'organisation, la grande étiquette rose qui pend et la blanche qui suit, il avait partagé justement les deux hémisphères de sa spécialité, c'est-à-dire il y a d'un côté le droit canonique et de l'autre côté la sociologie. Donc là, y compris même cette espèce de schizophrénie sur volontaire sur laquelle il a toujours voulu jouer, est complètement saisissable jusque dans la gestion de ce qui pourrait être des sacs à pommes de terre, c'est-à-dire, rapprochons-nous, hein, vous voyez, des stocks de tirs à part. Bon, évidemment, sur lesquels on peut, on ne va pas faire, hein, c'est plus pour faire des cadeaux à des bibliothèques ou à des gens de passage, mais de fait, c'est, au passage, mentionnons-le, c'est assez typique, parce que les tirs à part, il y a une espèce de thésaurisation sur les tirs à part, hein, de la part c'est un comportement académique assez classique, hein. On vous dit, ah non, mais j'ai plus d'exemplaires, je suis désolé, etc. Puis voilà, quand on arrive, en fait, il n'y en a aucun qui a été envoyé. Bon, mais ça, c'est si j'ose dire, c'est les justices de l'au-delà, c'est-à-dire que voilà, ça terme, on n'arrivera même pas à trouver assez de bibliothèques qui voudront d'une collection de tirs à part de Gabriel Le Bras. Alors, ces étiquettes, évidemment, font partie du relevé, et j'accélère un petit peu, je vous rassure, elles sont même en deux coordonnées, vous voyez. En fait, il y a une organisation verticale et une organisation horizontale, c'est-à-dire que verticalement, les travées ont une étiquette sociologie générale, l'autre en dessous c'est sociologie religieuse ou questions contemporaines, et ensuite c'est découpé par segment, vous allez voir sur un autre relevé. Au passage, évidemment, les étagères gardent aussi la trace de l'histoire du lieu post-positionnel, si j'ose dire. Vous voyez ici une petite étiquette emballant un tiré à part situé en haut, tombé à une époque assez ancienne, qui commençait à mettre sur la piste, évidemment, des remaniements, des déplacements. J'ai toujours pensé qu'évidemment, tout n'était pas dans l'ordre parfait, et que Marc Le Bras, de toute façon, après ses 85 ans, n'y montait plus beaucoup, donc ça favorisait tout ça. Mais plus le travail avançait, plus je prenais la mesure des déplacements. C'est là où l'archéologie est utile, puisqu'on peut même reconstituer des chutes matériel dans ce lieu, l'histoire des chutes, mais là purement gravitaires, hein, j'entends, en l'occurrence ici. Mais on peut les reconstituer parce que là, en l'occurrence, ça collait très bien avec un morceau de tiré à part qui était auparavant en haut. Donc on peut faire tout ce travail. Alors évidemment, moi vous le comprenez, si je vous le montre là, c'est pas pour le plaisir. Si, c'est pour le plaisir d'ailleurs, mais essentiellement. Mais je veux dire, c'est pour le plaisir de la modélisation et de l'étalonnage. Il ne s'agit pas d'enregistrer toutes les chutes de livres depuis 40 ans dans un appartement de la. Cela dit, on pourrait peut-être reconstituer une partie de l'histoire du climat. Hein. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est... Ben oui, non, mais c'est vrai, une tempête. J'accélère, bien entendu, je suis désolé. Bon, alors évidemment. Il y a tout type de support, et pour terminer, voilà un relevé global. Vous voyez en fait les travées, comme je vous le disais, verticales, les cases horizontales qui correspondent à l'origine à des thématiques. Bon, c'est assez classique, hein, une fois de plus, mais on peut, dans ce désordre complet apparent, parce que pour les fils, ils n'y touchaient pas, parce que pour eux, c'était alors qu'en fait, on retrouvait des nappes complètement cohérentes. Même si, et je les ai symbolisées ici, par les crochets, j'ai pu repérer des vrais inserts, c'est-à-dire et voilà, typiquement, là, les TAP, c'est tiré à part, des inserts de déplacement, c'est-à-dire quand il y a eu des choses qui ont été déplacées, c'est par morceaux entiers, par blocs, ou par exemple, là, ici, en dessous, parce qu'il était très musicien, des partitions qui ont pris la place de registres pontificaux, vraisemblablement, après. On peut le faire, ce travail, sur, quand on a le temps. Alors, dernier voyage, si vous le permettez, celui non plus de la topographie de la bibliothèque, mais de l'archéologie de la transmission. Alors, ça nous amène forcément à nous intéresser aussi à celle qui lui a survécu, donc Marthe Lebras, et aussi à toutes les traces stratigraphiques, cette fois-ci, puisqu'effectivement, vous voyez devant la bibliothèque ici, je remarque un morceau de plastique. Et me dit, voilà un très bon élément de datation. Quand on est archéologue, évidemment, on cherche l'anachronisme. Et effectivement, je déplie ce morceau de plastique et je me rends compte qu'il date des années 70. Donc, par définition, j'avais vérifié en fait cet établissement, auprès de la date de fondation de cet établissement. Là, le téléphone. Et effectivement, donc, j'avais pas besoin de ça pour le sentir, mais j'avais envie de le jouer pour le prouver. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, de la stratigraphie, de la sédimentation. Et là, on peut commencer à reconstituer les gestes de déplacement, les fichiers assez mobiles de l'érudit, mais aussi des masses lithologiques qui ne bougent pas, quand même. Donc, ainsi, les meubles de cours qui, eux, pour le coup, sont tous les cours dans des cartonniers, vous voyez, relativement organisés thématiquement, ou dans ce très beau double bahut de sacristie, construit d'ailleurs par lui, sur mesure, et qui est une sorte, quelques gros plans là, de plan de classement absolument là aussi intéressant, puisqu'il mêle les thèmes, les institutions. Hein, donc, il y a aussi bien des choses qui sont de l'ordre du thématique dans les fichiers, les conférences, que de l'ordre du lien avec les institutions, donc toute une palette. Bon. Au passage, évidemment, toutes ces étiquettes ont toutes fait l'objet d'un archivage. En plus d'être situées, elles sont toutes dans une... elles sont matériellement conservées. Le meuble, le cartonnier, était lui conservé. Finalement, ils ont voulu... Ça, c'est aussi le problème du collecteur, c'est qu'à force de dire ils sont beaux ces meubles, etc., au début, ils voulaient les donner, puis finalement, les enfants les ont récupérés, ils ont laissé tout le contenu, mais finalement, c'était le meuble qui apparaissait le plus intéressant que son contenu. Contenu que vous voyez, en fait, en plein trace de travail, des classements de correspondance, j'accélère, bien entendu, et parfois, quelques surprises. Là aussi, des insertions... Les meubles et les bibliothèques servent à cacher aussi, je le disais. Et là, vraiment une surprise totale, puisque personne, tout le monde ignorait cela. Dans un meuble en plus, pas le noir, mais celui qui était à côté, qui était consacré aux affaires financières, parce qu'il se trouve qu'il était assez... Il y a une certaine aisance du côté de Marthe Lebras, et des dossiers notariaux de la fin des années 40. Chose que j'avais vue en partie avec les enfants, parce qu'on ne peut pas, même si... pas non plus être, on est obligé de mettre quelques limites, hein. Mais précisément là, c'était intéressant, parce qu'au milieu de dossiers d'affaires notariales, ce dossier avec Marc et Marc Bloch, et c'était tout simplement, vous allez voir, des manuscrits originaux de Marc Bloch, puisqu'il est très proche de Marc Bloch, vraisemblablement confié à une date inconnue, mais alors comme c'était dans des dossiers notariaux des années 40, qui aurait pu passer à la poubelle, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je n'ai pas de culte particulier par rapport à Marc Bloch, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Puis ce sont des inédits, bien entendu, mais bon, on ne va pas s'apesantir, il n'y en a pas non plus énormément, mais c'est plus pour ce que ça révèle. Alors, la sédimentation, de l'insertion, du détritus, bien entendu, des accumulations détritiques, y compris dans des boîtes, ici, des collections de timbres laissées en plan, et aussi toujours ce travail en cours de classement qu'on peut saisir dans les tiroirs, c'est assez fascinant, et qui dit le temps suspendu, là, pour le coup, exemple typique, cette chemise, vous voyez, en fait, dessus, il y a un inscrit, 1957, c'est 10 différentes affaires, et vous voyez, en fait, à l'intérieur, quand on ouvre, il y a une pochette avec marqué « à garder ». Donc, est-ce que le reste, ça veut dire qu'il considérait de ne pas le garder? Qu'est-ce que fait ensuite l'archiviste? Est-ce qu'il considère que c'est... comment s'exprime la volonté? C'est, ce sera mon dernier segment de parole, si vous le permettez. C'est-à-dire tout le problème de comment, face à cette accumulation en partie silencieuse, comment retrouver l'intentionnalité, hein? Ou plutôt, comment ne... Enfin... Comment positionner l'intentionnalité Et comment poser d'autres limites cette fois-ci, celles évidemment du privé et du public, celles de l'intime et de l'extime, celles des correspondances, celles qui est la propre de tous les papiers et de tous les lieux d'accumulation. D'autant que apparaissait de plus en plus au fur et à mesure quand même du relevé photographique et du décongestionnement des lieux, des paquets marqués, des paquets, hein, vous voyez, là en l'occurrence papier d'affaires jusqu'en 1959, de la main de Marthe Lebras, qui prouvait qu'elle-même avait archivé évidemment plein de choses au fur et à mesure des 40 ans et peut-être même avant, avec des logiques thématiques et voire même une logique de sélection, de collection et non plus d'accumulation d'archives, qui exigeait peut-être de déplacer un peu son regard et de redescendre un peu dans l'appartement. Dans l'appartement du dessous. Parce que, on l'avait remarqué, mais il y avait déjà un de ces meubles coulissants qui était dans la chambre à coucher de Marthe Lebras, puisque, voilà, donc avec tous les dossiers courants, donc ça c'est quand même pas inintéressant, mais près du lit de la veuve, ces quatre cartons qui sont, comme vous le voyez, des cartons simples, mais avec cette petite spécificité qu'ils sont recouverts de papier cadeau. Hein, ce sont des papiers cadeaux. Et quand on les ouvre, on s'aperçoit que le travail est énorme et que face au désordre, ou plutôt à l'ordre suspendu, fragile d'en haut, des logiques de sélection, évidemment, ont présidé. Et là, en l'occurrence, les quatre cartons, c'est tous les manuscrits d'articles, de livres, etc., sélectionnés, extraits, hein, sanctuarisés, ne serait-ce que parce que dans la culture d'une femme du début du XXe siècle, les manuscrits, on les met à part pour les bibliothèques, hein. Et les archives, on les met à part pour les poubelles. Bon, c'est d'ailleurs le principe des manuscrits, c'est que ça permet de jeter les archives. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que en tout cas dans la tradition ancienne de la Bibliothèque nationale, ce qu'on appelle, c'est bien pour rien qu'on dit au cabinet des manuscrits, c'est que c'est pas du tout des fonds d'archives, c'est des manuscrits extraits. Alors, des paquets, il y en avait plein, en fait, au fur et à mesure dans les placards qui arrivaient, pas simplement près du lit. Exemple, un paquet épais, c'était tout ce qui concerne l'épée d'académicien, puisqu'il a été académicien des sciences morales et politiques. Donc, des thèmes, des sélections, des pépites se dégagent progressivement. Au passage, la nécessité de comprendre là une espèce de gestuelle de psychanalyse de la boîte par Marthe Lebras, puisqu'en fait, là, vous avez un de ces placards, non pas avec des archives, mais avec, ici, des vêtements, puisqu'en fait, Marthe Lebras était, comme beaucoup de gestionnaires domestiques, une incroyable... à la fois gardeuse et surtout dissimulatrice, parce que quand on a l'appartement est grand, mais pas tant que ça. Et les enfants, en fait, m'ont fini par avouer qu'au tout début, ils ont découvert un peu partout, pas simplement des archives évidemment dissimulées, mais que tout était classé. Exemple ici, vous voyez, robe violette, robe imprimée bleu marine, à bande rouge, etc., tout mis en boîte. Donc finalement, les archives les plus précieuses étaient prises dans un système beaucoup plus vaste, qui, là aussi, n'est pas unique. Et dans la société bourgeoise de la maîtresse de maison, il allait même très très loin ce système, puisque il visait à archiver à garder les différentes strates de chaussures d'enfants, etc., etc. Et ainsi, les enfants découvrent à peu près toute l'histoire de leurs vêtements, si j'ose dire, mis en boîte, jusque depuis évidemment les robes de baptême. Donc évidemment.